originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadhoubounedi.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Frédéric Sigrist. Daniel Morin.
Bonjour, bravo Daniel.
Quel bel homme.
Oh, observateur.
Non, mais je parle pas toi. Et voici Isabelle Nanty. La vraie.
Salut tout le monde.
Ça va Isabelle?
Ça va.
Ravi de vous accueillir à ce micro. Encore plus ravi d'avoir vu avant tout le monde, même s'il y a eu, j'imagine, quelques projections faites en province, à Paris, des avant-premières pour le public.
Pas trop.
De Montpoussin, pas trop?
Non.
Ah, bah dommage.
Ils essayent de renouveler les formules de sortie de film.
Ils essayent de garder le plus de place payante, peut-être. Ça s'appelle Montpoussin, c'est le film de Frédéric Forestier.
Le producteur qui parle.
Et je ne suis pas. Non, mais moi, j'aime bien l'idée, parce que quand on assiste, encore plus en province, à la projection d'un film avant qu'il ne sorte. Non, mais oui, en région, hors du périph. Tu assistes à une projection, que les vedettes du film sont là. Tu le vois gratos, avant tout le monde, et tu peux parler aux vedettes après. C'est un événement. Enfin, moi, ça m'a
ça, le Becno et Rapia. Hein. Ça,
mais je suis même pas sûr que ça soit gratos en plus.
Ou alors c'est sponsorisé par une radio des fois qui est partenaire, oui, qui offre des invitations, un truc comme ça.
Oui, non, mais on aime bien de voir un truc en avant-première, c'est magique.
Ouais, c'est ça.
Quand on peut le faire, on aime bien le faire.
Ouais, j'imagine. Isabelle, je pense que vous connaissez malheureusement Tom Villa. Je ne suis pas sûr que lui ait bien compris pourquoi on vous a invité.
Parce que je lui dois de l'argent.
Non, c'est pas ça.
Non, pardon. Okay, d'accord. Non,
mais tu encore dois... quelqu'un qui te doit du blé.
Tu dois ta carrière.
Je l'ai rendu tes 50 centimes, Daniel.
Non, quand même pas.
Si. Non, mais j'adore Isabelle Nanty. Voilà, je sais, c'est un peu irrévérencieux, mais j'aime Isabelle Nanty.
Là, vous êtes tous les deux dans un Grinch.
Isabelle qui était un peu stressée d'ailleurs. Isabelle qui était un peu stressée avant de venir dans la bande originale, et je la comprends. C'est vrai que cette émission est connue pour balancer grave contre les invités. On peut le dire. Il y a eu On n'est pas couché avec Zemmour et Nolo et la bande originale. Et comme elle était un peu stressée, c'est Isabelle, elle m'a appelé hier et je vous fais écouter la conversation. Oui, allô?
Ouais, c'est Isabelle.
Isabelle qui?
Mergo.
Ah, je ne savais pas que vous aviez mon numéro. Bah, bonjour Isabelle. Vous avez plus votre chantement, c'est pas...
Déjà, toi, tu l'as.
Mais non, c'est Isabelle Nanty, Toto. Ce qu'il est con, celui-là.
Qui c'est qui est con?
Non, laisse tomber.
D'accord.
Dis, tu sais que je viens sur Inter la semaine prochaine?
Ah, cool, chez Trapnard.
Non, je suis pas assez intello. Non, je vais chez le présentateur de karaoké, moi.
Ah, génial.
Ah, donc tu savais pas, vous savez pas à l'avance, quoi, tu savais pas.
Enfin, écoute, je fais comme Daniel Morin, j'écoute les invités quand ils sont autour de la table. Voilà, je peux pas...
pas faux.
Ah bon, parce que toi, tu fais pas une chronique sur les invités?
Si, mais c'est un texte à trous. Je mets les noms au dernier moment, voilà, comme ça. Bon, je te cache pas qu'il y a.
T'as une fiche type.
Oui, exactement.
Ah, voilà. D'accord.
Oui, voilà.
Bon, et je voulais savoir, il est sympa, Maggie.
Nagui.
Oui, pardon. Il est gentil.
Allô.
Tu m'entends?
Ouais, nickel. Ouais.
Donc
c'est Nagui.
Oui. Oui.
Et il est très gentil. Ah. Voilà, je peux pas parler à côté de moi. Voilà, je peux pas.
Ah, d'accord. Et il fait quoi comme genre d'interview?
Oh, c'est très facile. Tu vas voir, quand il a aimé un film, il dit à tout le monde d'aller le voir. Voilà.
Et quand il l'a pas aimé?
Oui, il dit à tout le monde d'aller le voir. Voilà. C'est pas... Mais pas de la même façon. Il y a des petites subtilités. Voilà. S'il parle du décor, c'est pas bon signe généralement. Voilà.
C'est... Ah, ouais. C'est comme quand les mecs ils viennent après le théâtre dans ta loge et qui dit ah donc alors là c'est ta loge.
Voilà, c'est exactement la même chose.
Donc il pose quoi comme question?
Bon, c'est des questions très percutantes. Assis, rentre dedans. Voilà, comme le cadre photo, le dire-faute. Voilà, il aime bien parler du dire-faute. Il sait pas ce que ça veut dire, mais c'est voilà, il aime bien parler du dire-faute. La lumière, la table régie aussi, il va te parler de la table régie pour savoir si tu grignotes du chocolat entre les prises. Et... Enfin voilà. Et puis il va te demander aussi cette écoute de la musique pour te mettre en condition dans certaines scènes.
Voilà. Ah ouais, et je dois
répondre Nagui
quoi?
Qui est en train de barrer des trucs sur sa fiche.
Et je dois répondre quoi?
Oui, et tu dis oui, évidemment. Sinon, il va être en galère, même si c'est pas vrai, on s'en fout. Voilà.
Ouais, et il m'a demandé de choisir des chansons qui correspondent à des années de ma vie.
Ah, très bien. Non, c'est vrai, il y a 13 chansons. T'as choisi quoi du coup?
La digue du cul.
C'est bien, c'est vrai qu'on l'a pas eu beaucoup cette année. Non,
tant
c'est
mieux,
pas...
tant mieux, parce que je voudrais pas avoir l'air d'être trop.
Ouais, enfin, non, bon. Voilà. Il y a des chances qu'il nous parle de Munch aussi, la série TF1.
Ah, merde, ouais, comme tu dis. Ouais. Ouais. Attends, faut qu'on soit raccord. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'était un tournage de rêve.
Faut leur broder parce qu'on a passé 15 jours enfermés au tribunal d'Evry qui ressemble quand même à un blocos de l'ancienne URSS. Ils ont de la moquette murale au mur.
Mais oui, très mauvais pour les acariens. Ouais. Voilà. Non, il faut un truc un peu croustillant.
Attends, je sais. Fais-lui croire que tu fais une émission de télé bientôt, là.
Ah? Quoi, une émission de télé, comment? De télé-réalité, un truc?
Oui, je sais pas.
Quoi, genre?
Les anges, non, je sais pas moi.
Ah, ou Le bonheur est dans le pré?
L'amour est dans le pré.
Ah, c'est le bonheur, c'est l'amour. Oui. Ah ouais, non, alors je peux pas faire ça. Non, mais je vais lui dire que je fais danser avec les stars.
C'est pas
tu ouais, ouais, bah tu sais, il faut toujours une petite grosse un peu vieille qui est éliminée en première semaine. Donc c'est crédible.
Bon, OK.
Non, mais c'est pas vrai. Bon, parce qu'en fait, tu sais, si moi je fais danser avec les stars, c'est pour gagner.
Bah oui.
Tu connais ma niaque.
Tu vas pas pour faire Julien Lepers.
Bah non.
Bon, on se voit à l'émission, Isabelle. Gros bisous. Merci beaucoup.
La bande originale. Nagui. Sur France Inter.
Ah, il me fait bosser dès le matin, celui-là.
Sans répétition.
Sans répétition, elle a été formidable.
Mon Poussin, un film qui est réalisé par Frédéric Forestier avec Pierre-François Martin Laval.
Non, Pierre-François Martin Laval.
Ah oui, c'est vrai. Pierre-François, t'as raison.
Mais parce que PEF, Pierre-François, ça fait PEF.
C'est ça. C'est...
Alors que Pierre-Martin, ça fait PEM.
Pierre-François, on l'appelle toujours PEF. C'est lui, va mieux.
Et même parfois PF.
Après le repas, ouais, c'est ça. Et avec également Manon Valentin, Thomas Oliveres et donc vous, Isabelle Nanty. J'ai vraiment adoré le film. Allez le voir, le décor est formidable. Le Dirfot a fait un travail de lumière dinguissime. Il paraît qu'il y avait une bonne ambiance autour de la table régie.
Très bonne ambiance avec des cakes de chez Lily.
C'est un très beau film. Tout de suite, voici la digue du cul, un disque que vous avez choisi.
La digue du cul.
Donc, mon Poussin, et on le voit déjà sur l'affiche, vous prenez en sandwich ce pauvre Thomas Soliveres. Je dis ce pauvre parce qu'il est victime de son chagrin d'amour, de son premier chagrin d'amour. Sa première belle histoire d'amour fait qu'il est triste et il en pleure matin, midi et soir. Et les parents se disent, c'est donc vous et Pef se disent, on va s'en occuper, on va lui faire vivre un stage intensif pour récupérer sa bonne humeur et oublier.
Ses points.
Et oublier son premier amour.
Voilà, on va essayer de le désintoxiquer.
Dégoûter.
On va le dégoûter même de l'amour.
C'est tellement drôle. Alors vous êtes censé vous aimer, mais alors vous aimez à un point presque d'adolescent, avec des
accents.
Ah oui, genre poisson, un poisson de Mévanda. Oui. C'est-à-dire qu'au début il y a la scène des accents où vous échangez avec Pep, vous faites l'amour, mais ça ne vous excite que si l'un ou l'autre ne prend
un accent étranger ou de région.
C'est ça.
Il y a de l'Alsace, il y a de la Suisse.
Il y a de l'Alsace et de la Suisse.
Du Québec, non, de mémoire, je crois. Il y a un Québécois
aussi, le garagiste.
D'accord, ah oui, il a un métier en plus.
Ah bah oui,
le fantasme, il faut
qu'il y ait des fonctions.
Très bien.
Ces fonctions sont liées directement à des instruments aussi.
Voilà. vous avez tout de suite
gêné, Nagui.
Oui, c'est ça. C'est une des premières fois que
ça ne lui évoque rien du tout.
Vous avez tout de suite été considéré en couple par Frédéric Forestier. C'est-à-dire que tout de suite, il vous a contacté tous les deux pour que tous les deux vous soyez le papa et la maman. Comment s'est fait le casting, j'allais dire le montage du film. Je ne sais pas si c'est
alors
le terme le plus approprié.
Très cash parce que.
Comme d'habitude.
En fait, c'est pas qui était sollicité pour faire le film et ils m'ont proposé de jouer sa femme et je n'ai même pas lu, j'ai dit oui. Après j'ai lu. Voilà.
Direct. Bon, de toute façon, jouer avec Pef, vous l'avez déjà fait souvent, y compris dans votre propre film. Vous avez été sa prof au cours Florent, le retrouver. Vous n'étiez pas un prof aussi.
C'était lui
le réalisateur. Ouais, voilà, ouais, chacun son tour. Ouais. Se retrouver ensemble, ça j'imagine. Mais un film, c'est pas non plus c'est pas une bouffe entre potes. C'est-à-dire que c'est une longue histoire. Il faut quand même se dire quel est l'histoire que l'on raconte, la trame.
En fait, je pense à ça après, moi. Ouais. J'analyse après.
Non, je le jure.
C'est plus important sur toute une vie de retrouver un ami qu'on ne voit jamais parce que chacun a sa vie et tout ça, et de partager 3 mois avec lui pour faire un film que de faire une carrière.
Et de vous retrouver amant. C'était la première fois.
Ah ça, alors j'aurais dû y penser avant.
C'était gênant.
Hyper gênant. C'était presque incestueux en fait, parce que c'est comme un frère pour moi. C'est un compagnon de route, Pef, je le connais depuis 30 ans et c'est
il
pour
était
ça
temps.
Que
ça devait se faire. Hein.
C'est comme quoi. Mais je suis un peu vieille maintenant moi pour.
Ça n'a plus cours ce genre de considération.
Ça marche plus ce genre d'argument, Isabelle.
Justement l'originalité de penser que si. Et donc ce que je veux dire c'est que on était tellement gênée de devoir faire cette scène
au lit
qui n'était pas écrite totalement comme ça, enfin qu'on l'a transformé en un petit numéro de cirque.
En sketch, ouais, c'est ouais. ça. Ouais, non, c'est extrêmement drôle. Le jeu, évidemment, on revient pas sur le jeu ni de Pef ni le vôtre. Thomas Oliveres, moi, je l'avais vu dans Les Gamins. Oui, non, mais surtout avec Chabat.
Ah oui, dans Les Gamins, il vendait du shit. C'est très drôle. Il vendait du shit à perte.
Super drôle.
Il achetait la barrette de shit, il en vendait 7 ou un truc comme ça.
C'est ça, c'est ça.
Sur scène aussi. Il faisait partie de la première équipe de ados, une pièce de café-théâtre qui a vachement bien marché.
Et puis il avait joué avec Harold Desmaud, avec Lynn Renaud.
Oui, avec Lynn Renaud.
Et Claire Nadeau.
Et Claire Nadeau, pardon.
Ouais. Bah, je suis obligée de parler de Claire Nadeau, qui est ma mituche quand même.
Bien sûr, ma mituche.
Et Thomas, il est incroyablement doué. Ouais, d'abord, non, il fait croire quand même à cette histoire avec une sincérité. Ouais. Il y a vraiment du drame dans son interprétation et tout ça. Un naturel. Enfin, moi, je me laissais complètement porter par lui, en fait. Parce que c'était lui qui donnait le ton de ce film.
Les filles sont justes aussi, Manon Valentin, Leslie Medina, enfin tout le monde est juste. C'est extrêmement rythmé, c'est aussi extrêmement mouvementé. L'idée donc de dire, alors je sais pas jusqu'où on peut raconter le film sans trop déflorer le sujet, mais globalement les parents vont faire une espèce de bootcamp pour redresser leur fils de cette histoire d'amour en disant à la militaire on va employer la manière dure et même il y a une scène de baffe. Où Pef m'a dit, puisque j'ai eu la chance de faire l'émission avec lui mardi dernier, il m'a dit que les gifles donnés à Thomas étaient des vrais gifles. Il a dit, arrêtez de faire des gifles de cinéma ou de théâtre, mettez-moi des vrais claques. Voilà. Et vous n'aimez pas, mais pas du tout ça.
Ah non, je ne veux plus jamais donner de claques dans des films. C'est, tout court. Enfin, ce que je trouve, c'est que depuis que j'ai fait Tati Daniel, il n'y a pas un film où on ne m'a pas proposé de donner une claque à quelqu'un. Ah. Ce que je disais l'autre jour, c'est qu'on me fait jouer avec des poulpes. Trois fois j'ai joué avec des poules.
Et on il y a des niches.
Voilà. Et on me propose de donner des claques. Je ne sais pas quel délire, fantasme, les gens se font avec moi. Mais
on doit se dire, elle les donne bien, quoi. On doit se dire,
je sais pas, mais en tout cas, les claques, ce qu'il y a de particulier Thomas. Avec Thomas et Tilla Shelton, c'est que Tilla aussi ne voulait pas qu'on lui donne une fausse claque. Il y avait un cascadeur qui était là pour régler une fausse claque et elle a dit non, vas-y, tape à plat.
Pour que ça sonne bien.
Pour que ça sonne bien et tout. Et donc, on a fait une prise parce qu'elle est tombée par terre et j'ai cru que je l'avais tuée.
Oh la pauvre.
Ouais. Donc après, il a fallu le refaire dans l'autre sens. Ouais. Et moi, j'étais bouleversée. J'aime pas du tout faire ça.
Et sur Thomas, il y avait. Parce qu'il y a des.
Il s'en prend, mais il s'en prend.
Mais il y a une scène au ralenti aussi, c'est ça, où on voit que c'est pas vrai. C'est pas faux.
Oui, c'est ça.
Vraiment, tu vois le visage.
Non, après, il en avait marre. Il a un peu.
Comme un boxeur qui reçoit un coup de poing. C'est-à-dire qu'il y a tout le visage qui est déformé. Mais surtout, je pense que ça se compte par dizaines, quoi, les gifles reçues dans.
Faut surveiller son état de santé, hein.
Ouais. Non, c'est vrai, ça bouge le cerveau, hein, on le sait. Hein.
Est-ce que l'on peut raconter ce qui se passe dans la deuxième partie du film? Non.
Normalement, okay. On peut pas.
Eh ben, on le dit pas. Très
parce
bien.
Que c'est la petite, c'est la petite, ouais, c'est le petit switch.
Il y a un twist marrant qui se passe.
On peut juste dire que
cette
cure de désintoxication appliquée à l'enfant va résonner et poser des questions au couple des parents.
Non, c'est drôle.
Parce qu'évidemment, il va résister beaucoup à notre programme. Enfin, il va y résister.
Non, mais il va résister. Et puis la question est de savoir, est-ce que le couple lui-même va résister à ce programme? Est-ce que ça ne va pas vous renvoyer à ce que vous étiez lorsque vous étiez adolescente ou vous reposer des questions sur votre propre couple?
Est-ce que ce n'est pas ça la vraie belle façon de s'aimer?
Le moment où ça bascule, c'est au restaurant, lorsque vous demandez à Pef si vous n'êtes pas en train de commettre des erreurs, si vous n'allez pas trop loin, et où là, lui continue d'appuyer le pied sur le champignon. Et là, on sent la fibre maternelle qui revient au galop. Ouais.
Et aussi à Strasbourg, là, je suis dégoûtée. Strasbourg me dégoûte. Oui. Strasbourg et les claques, les claques, me dégoûte. Oui, donc, comme quoi, il y a des résonances avec ma propre vie. Quoi.
Pour les claques ou pour Strasbourg?
Strasbourg aussi.
Et il y a, c'est vrai?
Ouais.
Vous avez mal vécu une histoire.
C'est
un problème de choucroute à Strasbourg. Et puis il y a une scène d'anthologie aussi. Je crois que c'est la dernière scène ou l'une des dernières scènes du film. Je vais juste préciser qu'elle se passe dans la cuisine, sans expliquer ce qui se passe. Mais là, j'ai eu le sentiment que c'était une espèce d'improvisation avec Pef qui ne pouvait avoir lieu. J'imagine que si, avec Jean-Paul Rouve, que vous fréquentez aussi dans les tuches, ça devrait se faire, mais qu'il fallait une sacrée complicité pour que Pef et vous fassiez cette scène dans la cuisine.
Alors, je crois qu'il n'y a pas du tout d'impro dans ce film.
C'est vrai?
Oui, parce que Frédéric Forestier, c'est un metteur en scène très rigoureux. Il a vraiment
fait Astérix, pardon, je vous interromps, pour situer, qu'il avait fait Montboulet ou Astérix, c'est les Jeux Olympiques, par exemple.
exactement. Et c'est quelqu'un de très précis. Il a son film dans la tête, presque à l'intonation près. Donc, il nous a vraiment dirigés et on s'est laissé diriger à la virgule.
Ouais, donc, sauf la scène du lit, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait un peu d'impro.
Ouais, mais c'est il l'a réécrit juste avant qu'on tourne. C'était sur des feuilles. Enfin, je veux dire, et il fallait dire le texte qu'on avait réécrit ensemble. Non, mais c'est une façon de travailler. Moi, j'aime bien les méthodes différentes des metteurs en scène. Donc, il y a pas beaucoup de là où on est dans l'impro, c'est qu'on est dans l'hyper écoute et dans une chose qu'on n'a pas besoin de jouer. Qui est une affection qui est une connaissance l'un de l'autre qui date de tellement longtemps que ça se joue pas en fait.
Oui, il y a cette complicité qui est assez étonnante en fait de se dire je comprends même pas pourquoi vous avez pas incarné un couple plus tôt.
Ah ouais. Ouais. Bah peut-être parce qu'on a 10 ans de différence.
Bah ouais, mais ça se voit pas.
Mmh. Ouais.
Ça se voit vraiment pas.
Non, on se pose pas la question de savoir si c'est crédible ou pas d'être en couple. Vraiment, ça fonctionne.
Merci, ça me rassure parce que évidemment.
Non, mais c'est pas pour vous. C'est juste que Pef a pris un vrai coup de vieux.
C'est vrai qu'il a mangé à ce
moment. Il salit tout, il gâche tout. Non, vraiment, il y a aucune. L'illusion est pas du tout rompue. On imagine que vous êtes un couple et je me suis dit.
Il y a un travail du dire faute.
Dire faute. Non, puis aussi, on est réunis par Thomas Oliveres et Manon Valentin qui font nos enfants. C'est qu'en fait, on joue une famille. Et donc, c'est au-delà du couple, on est une famille, on est une entité, on fait bloc.
Avec la crise d'ado qui marche pour les deux, d'ailleurs. C'est-à-dire aussi bien la fille que le garçon. Les deux sont adolescents.
La crise, on la comprend.
Ah oui, il y a un traitement infâme de la
elle est drôle, elle
est crèche, elle n'existe pas dans la famille, tout le monde s'en fout, elle peut dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, il n'y en a que pour mon poussin, il y a quand même cette affection pour l'aîné. Souvent l'aîné dans une fratrie comme ça, il concentre toutes les attentions.
Faux, c'est le dernier qui concentre toutes les attentions, c'est pas le premier.
Quand il y en a trois.
Le sacrifié, c'est le deuxième.
Et Joe l'analyse.
Si je peux apporter quelques lumières.
Sa parole est rare, mais elle est importante.
Le conseil du jour à tous les parents par Daniel Morin.
Faites 3 enfants, privilégiez le premier et le dernier.
Faites 3 enfants, ils s'élèvent tout seuls. Voilà, ils s'occupent.
Et accompagnez celui du milieu chez le psy régulièrement pour qu'il comprenne ce qui lui arrive.
Non, mais il ira tout seul.
En ce sens, le premier, là, mon poussin, on voit bien qu'il catalyse un peu toutes les attentions parce que c'est le premier à traverser les crises amoureuses. Enfin, ouais. Les premiers, c'est les pionniers. Donc forcément, on s'inquiète beaucoup plus quand ils rencontrent un premier problème. Et vous êtes une mère enveloppante, parfois même dégoulinante autour de cet enfant qui ne respire plus.
Mais peut-être aussi on projette notre propre expérience sur les enfants. C'est ça qui est dangereux aussi. Et on s'imagine qu'ils souffrent beaucoup plus qu'ils ne souffrent réellement. Donc on essaie de pallier à ça. Et le danger d'ailleurs, je pense, chez les parents, c'est de il faut avoir de la compassion, mais il ne faut pas vivre la souffrance de son enfant, sinon on ne l'accompagne pas.
Alors, ça reste une comédie, je suis pas sûr qu'on trouve la solution dans le film.
Non, mais c'est pas tant l'idée, mais comme pédiatre, on voit bien que la compassion, elle ne joue pas à fond avec les patients, mais qu'elle joue à fond avec votre fils, ça c'est super drôle.
Parce que vous êtes docteur dans le film, vous soignez des enfants, y compris les plus récalcitrants au vaccin.
Alors j'ai fait un stage accéléré de médecine, vous savez.
Avec Simez.
Avec
aussi l'avantage ou l'inconvénient d'avoir votre cabinet dans le même immeuble, juste un étage de différence, avec l'appartement familial. Ouais. Donc ça permet de passer de l'un à l'autre, presque la seringue encore à la main. C'est-à-dire que tout se fait dans le
speed. En tout cas, le stéto autour du cou.
C'est ça. Il y a un rythme effréné. C'est vraiment drôle. Voilà. Il y a une vanne à chaque plan. La bande-annonce est extrêmement bien faite. Si vous avez des doutes, allez la regarder sur Internet. Mais dans cette bande-annonce, il y a déjà beaucoup de choses. Et je peux vous garantir, parce que c'est pas le cas de tous les films, il y en a encore aussi. Oui. Il en reste.
Tout n'est pas dans la bande annonce.
Sinon, ils auraient fallu faire une bande annonce d'une heure et demie. Donc
là, Isabelle, il est sincère.
Sympa. Merci, Nagui.
Non, c'est vrai. J'ai vraiment aimé le film.
Je partagerai avec le producteur, Michael Abécassis, et
C'est Michael,
le metteur en scène. Oui.
Non,
partagerai
avec. Non, je le connais.
Je partagerai avec eux.
Mec, genre, je connais tous les producteurs. Non, mais allez voir ce film signé Frédéric Forestier avec Pef, Isabelle Nanty, Thomas Oliveres qui tire son épingle du jeu.
Il va faire beaucoup de choses immenses.
Il fait Spirou déjà.
Il vient de tourner Spirou.
Ah, mais donc sous la direction...
Non, parce que c'est pas Gaston Lagaffe.
Ah oui, pardon, Gaston, c'est pas Gaston et c'est pas le petit Spirou qui a été tourné aussi. Là, c'est le grand Spirou et il y a Fantasio, c'est Alex Lutz.
Voilà. Ah oui, donc il y a toute une série là qui, oh, qui va arriver. Ouais. Il y a
Twitter.
Tu vois qu'il a bossé. C'est les Avengers français. C'est les Avengers français.
Donc voilà, ce film s'appelle Mon Poussin avec des parents poules. Et quel que soit l'âge que vous ayez, que vous soyez parent, que vous soyez enfant, que vous soyez ado, en tout cas, moi j'ai eu la chance de pouvoir aller voir le film justement avec de grands ados et ça fonctionne à tous les niveaux parce que je pense que chacun le voit de son prisme résonne, et son analyse, ouais. Voilà, et que ça marche, et surtout, voilà,
c'est un bon feel good de l'été.
Exactement.
Aller voir avec ses grands-parents.
Une vraie comédie, il y a tellement de feel good où finalement tu rigoles pas tellement là pour.
Non, non, moi ça me saoule l'expression feel good parce que c'est
popcorn. C'est drôle ou c'est pas drôle?
Non, c'est ceux qui ont rien à dire, ils disent moi je suis feel good.
Non, ce que je voulais dire, c'est fresh good. C'est-à-dire, s'il fait très chaud, il y a la clim.
C'est un bon argument, ça.
Et les glaces.
C'est la fête du cinéma.
Et puis,
là,
et s'il pleut, eh ben, on est à l'abri.
Et puis, il y a une bonne musique.
La Rousseau, à la table.
La Rousseau.
Alors, je connaissais pas ce titre, mais c'est vrai que les paroles, c'est quand ils se battent, ils se battent. Tu sais, c'est le côté When they fight. Ouais, dans, je chante un vieux groupe des années 50, 60, je sais pas, qui s'appelle Generation. Je ne connaissais pas.
Il y avait un film qui était La Guerre des Roses où il se.
Ouais, tellement
c'était
drôle.
Génial ce film.
Mais c'était
avec
que une crise de couple. Là, il n'y avait pas les enfants qui intervenaient et les ponts, les liens entre les uns et les autres.
Et après, ils se font des défis. Parce que les ados se font des défis, donc les parents vont se faire des défis. Je dis rien de plus que ça. Mais j'en profite pour parler d'un défi qui existe chez les ados et qui est très dangereux, qui s'appelle le Blue Whale Challenge.
Qu'on
crée des mecs sur internet et qui est très dangereux parce que c'est.
Au péril de leur vie, vous voulez dire?
Ah ouais, ouais, ouais. Les mecs envoient aux ados des défis tous les jours et ça se termine très mal.
Mais ça va jusqu'au suicide, quoi. Ouais, le défi, c'est.
Ouais, tutoie.
Ah, carrément.
Ouais, ouais. D'accord. Donc faites attention à vos enfants.
C'est surtout qu'on ne sait pas si on a gagné.
Non, oh, l'humour noir.
Non, mais au-delà de ça, il a raison. C'est débile comme défi.
C'est débile. Bah oui, c'est non, débile mais bon, défi. On est fragile à l'adolescence. Et, non, mais j'en parle parce qu'on bien a sûr. Eu dans l'école de ma fille une alerte sur ça. Et
d'accord. Non, mais c'est bien.
C'est sérieux. Donc, nous, c'est pour rigoler. Et aucun mal n'a été fait à un humain dans ce film.
Mais il y a une américaine, qui passe en justice là en ce moment, puisqu'elle a conseillé sur des messages sur Twitter à son copain de se suicider en lui disant vas-y, c'est le moment, c'est maintenant et tout. Et le type s'est suicidé. Donc là, elle va être jugée.
Voilà.
Ah ouais,
voilà.
Okay.
Émission de divertissement.
Non, mais là, il est juste question de prouver son amour à l'autre et ça pourrait être, je sais pas, fait le tour de la place de la Concorde tout nu à minuit.
Non, mais là aussi, c'est dangereux. Voilà.
Mais chacun, voilà. chacun
c'est,
ses vices.
C'est bon enfant. C'est bon enfant.
Chacun ses vices.
Leïla, c'est le jeudi, ça.
Vos oreilles, oui, mais à 16h, c'est
ce soir, c'est le champ de Mars.
Moi, j'aime bien quand il y a des bouchons.
Pardon?
Oh là là.
Attention au rétro.
Non, ça va.
Et Nagui fait quelque chose.
Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de saison.
Tout de suite, on lit au deuxième degré.
Voilà, c'est ça. Merci.
Message de qui?
J'ai reçu un message de Delphine Arnaut. Merci, à bientôt.
Je vous remercie.
Au revoir.
Et ben voilà.
Vos oreilles ont sifflé.
Un nouveau message de David Pujada. Je peux revenir?
Un message de Michel Field.
Michel n'est plus là.
Leïla, vos oreilles ont sifflé quand vous avez su qu'Isabelle Nanty revenait dans l'émission.
Oui, Isabelle, quand je pense à vous, je pense à beaucoup de films, je pense à beaucoup de vos interventions, même télé. Mais il y a un film qui me revient forcément parce que j'ai un peu grandi avec.
Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? C'est Amélie. Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie.
Dis-moi, papa, si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment?
Est-ce que vous êtes belle, Georgette? Quand vous rougissez?
C'est mon aréophagisme.
C'est mon aréophagie.
Amélie Poulain, c'était en 2001, un film de Jean-Pierre Jeunet.
Culte.
Alors, on doit vous en parler.
Jean-Pierre Génie, je l'appelle, moi.
C'est, pourquoi?
Génie.
Jean-Pierre Génie.
D'accord.
Génie
on doit vous en parler, j'ai compris. Géné. Tiens, il y a un truc.
Pourquoi?
Moi, je pense que je vais pas y arriver aujourd'hui.
Jean-Pierre Jeunet.
Mais ça, c'est les klaxons place de la Concorde.
Ouais, c'est ça.
Et les bouchons.
Et les bouchons.
Pardon, je vous écoute.
Bah oui, non, c'est pas grave. Isabelle, on vous parle beaucoup de ces films. J'imagine tout le temps, on vous parle de ce film. Moi, il a eu un effet important, je trouve, dans ma vie. C'est que avec ce film, j'ai réalisé qu'on pouvait transformer des choses. Il y a un petit côté féerique, se dire qu'on peut avoir une prise sur la vie des autres et sur la sienne. Est-ce que ça fonctionne aussi quand on interprète même un rôle dans ce film-là?
En tout cas, on avait le sentiment de faire quelque chose d'un peu unique, où il y avait une grâce, avec un petit chapeau sur le A. Mmh. Et c'est vrai que dans la vie, c'est tellement simple de faire des tout petits trucs qui peuvent non pas vous donner du pouvoir sur la vie des gens, hein, c'est pas le but, mais d'ouvrir des portes, d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir des vasisdas.
Tout ce qui s'ouvre. Ouais. Tout ce qui s'ouvre.
Voilà, pour enfin, que les gens trouvent des solutions.
Trouver des ondes positives. Ouais.
Voilà, ou même faire des actions qui vont changer les choses, parce qu'on sait bien qu'il suffit d'un truc pour que ça en enchaîne d'autres.
Et quand c'est très feel good comme film.
Fresh good. Et quand on est sur le tournage d'un film comme ça, est-ce que vous dites on sent une forme d'état de grâce?
Ouais.
Est-ce que c'est un sentiment qu'on retrouve à de nombreuses reprises dans une carrière?
J'ai la chance de l'avoir ressenti aussi quand on a tourné Astérix. Mm-hmm. Alain Chabat est quelqu'un qui, je ne sais pas, qui, par son esprit, par son âme, par sa tranquillité et son inspiration, vous met aussi dans cet état.
Ça tient au réalisateur, à sa personnalité?
Ah bah c'est bien sûr.
Que lui?
Ah mais moi, je pense que c'est les réalisateurs qui insufflent évidemment l'état dans lequel vous allez être, donc l'état dans lequel va être le spectateur quand il va voir le film.
Et là, vous signez la mise en scène à la Comédie Française de l'Hôtel du Libre-Échange, de Feydeau, avec Michel Villermoz, avec le majestueux Christian Eck.
Mais magnifique.
Laurent Lafitte.
Florence Viala, Anne Kessler. Des jeunes aussi. Clément et Julien Frison sont
Vingtaine sur scène, donc il y a du monde. Ouais.
Alors, Bakary Sangaré.
Bakary Sangaré, et quand vous mettez en scène là, est-ce que vous vous dites à moi aussi d'insuffler cette grâce? Comment on s'y prend pour essayer de recréer ça? Parce que ça doit être magique de travailler dans ces circonstances.
Ouais, en fait, c'est, je pense, faire confiance. La confiance donne des ailes. Et quand on a une troupe comme celle de la Comédie Française, où ils sont tous extrêmement doués, ce sont des artistes inspirés avec plein de créativité, il suffit de leur dire bah vas-y, et de faire que ça puisse coexister.
Ouais.
C'est ça qui est un peu compliqué, surtout avec un texte comme Feydeau. Mais au fond, si vous avez confiance et si eux prennent confiance au texte et les uns aux autres et en eux-mêmes.
Et en vous aussi. Vous oubliez, vous parlez du texte, ben, oui, partenaire.
C'est, parfois, ça doit se faire en s'effaçant un peu.
Est-ce qu'il y a un rapport, il y a un lien direct entre l'humanité d'un réalisateur, sa manière de, ou d'un metteur en scène, et sa manière de travailler, où il y a des gens qui sont sympas dans la vie, avenants, et qui vous proposent un projet, et puis dès l'instant où ils doivent travailler, ça devient des espèces de monstres, de dictateurs.
Ça arrive
aussi. Ouais.
Mais par exemple, à l'inverse, quelqu'un comme Alain Resnais, c'était un ange. Et lui, il y avait de la magie dans sa façon de diriger, parce qu'en fait, il disait très peu de choses, mais le simple fait qu'il vous regarde, ou qu'il fasse attention à vous, ou qu'il vous dise un mot, hein, quelque chose, ça nous élevait, ça nous donnait des ailes.
Oui, mais ça, c'était votre sensibilité, votre perception et votre intelligence, de comprendre que sur ce regard-là, il voulait faire passer tel ou tel message. Il faut être aussi réceptive. Il faut être deux, hein, pour qu'on s'entende.
Ouais,
donc,
ouais,
c'est pas uniquement le fait du metteur en scène. C'est vous aussi qui captez ces ondes qui sont envoyées.
Ouais.
Bah, c'est aussi la définition d'un bon comédien et d'une bonne comédienne.
Je pense que c'est la définition des aventures qui sont proposées par les films.
Mais c'est pas
pièces.
Que de la faute ou.
Je pense qu'il y a une part de magie dans la mise en scène, en fait. Il y a une part d'invisible, et que cette part-là, elle est parfois plus importante que même les actes. Moi, j'adore j'adore ce métier pour ça, en fait. Et même, j'adore la vie pour ça.
C'est pour ça que vous acceptez de tourner avec Pef sans lire le scénario, parce que vous dites il va y avoir quelque chose.
Je me dis, il ne peut pas avoir accepté un truc de merde.
Ouais.
Et j'ai confiance en lui, donc.
Ouais. C'est mignon, c'est fort, c'est beau comme déclaration d'amour. Mon Poussin, le film s'appelle comme ça, il sortira mercredi. Il est
dans des cinémas. Comme ça. Oui. Alors autant te dire, si on est à la place de la Concorde, je ne vais pas te louper jusqu'à la fin, là, pendant une heure encore. Allez à toi, on est parti.
Non, mais c'est la fin de la nuit. Moi, j'écoute.
Quand je suis parti, j'ai senti qu'elle était pourri, ma phrase.
Moi, je galère pas ce matin.
C'était joli.
J'ai à peine dormi. Voilà, on en est
tous là. Comme vous le faites, Isabelle, c'est romantique.
C'est un tribunal.
C'est artistique.
Non, dis donc.
Nagui, c'est juste la fatigue, l'alcool et la drogue cumulée.
Mon Poussin, donc, sort mercredi avec Isabelle Nanty, qui est notre invitée jusqu'à midi et demi. Voici l'humeur de Frédéric Sigrist.
Bonjour à tous. Bonjour Isabelle Nanty. Alors aujourd'hui, ça n'est pas le chroniqueur qui s'adresse à vous, c'est le père de famille.
Ah,
enfin. Parce que j'ai vu le film, Mon Poussin, et d'un point de vue pédagogie parentale, c'est une catastrophe. Voilà, il y a de terribles erreurs de communication qui sont faites avec vos ados dans le film.
C'est vrai.
La première étant, bien évidemment, de leur parler. Non mais c'est, ça c'est un truc qui m'a effaré. On ne parle pas à un adolescent, voyons. Ça se fait pas. Et encore moins s'il vient de se faire larguer. Moi, adolescent, je me suis fait jeter par un nombre de filles, mais hallucinant. J'étais ce qu'on appelle un être humain à usage unique. J'ai été plus largué qu'une bombe américaine en Syrie. Et pourtant, mes parents n'ont jamais débarqué dans ma chambre pour m'en parler. Ils se sont jamais immiscés dans ma vie sentimentale. Peut-être parce que j'en avais pas. Mais ils ont toujours été très respectueux de cette absence-là. Et puis si ça avait été le cas, je sais très bien ce qu'aurait dit mon père. Parce que mon père, c'était une sorte de philosophe du cul. Une sorte de Michel Onfray version Jackie et Michel, un Zarathoustra de la braguette. Il m'aurait regardé droit dans les yeux et m'aurait dit: à l'adolescence, il n'est point de peine de cœur que ta main droite ne puisse faire disparaître. Voilà ce qu'il m'aurait dit. De toute façon, je trouve qu'on vit dans une société où on parle beaucoup trop aux enfants. Il faut leur parler, mais pas autant que ça. Moi qui vis dans un milieu socialo-bobo-boulgoro-quinoa-compatible, j'ai des potes parents, ils leur parlent tout le temps, mais pour tout le temps, sur tous les sujets. Rien que pour les envoyer au lit, il faut qu'ils argumentent avec eux. Lubin. Oui, Lubin, c'est un nom de bobo. Lubin, il est l'heure d'aller au lit. T'arrivez-vous pas? Je sais, Lubin, mais c'est important à ton âge que tu te reposes, car ton petit corps a besoin d'un temps de récupération important pour pouvoir emmagasiner toutes les nouvelles connaissances que tu vas acquérir demain dans ton école alternative. Va pas ! Je comprends, mon chéri. Le déni est la deuxième étape du deuil après le choc matriciel. Tu vas ensuite passer par la colère, la tristesse, Lubin, la résignation, l'acceptation, et enfin, mon chéri, la résignation. Ne va pas ! Moi, j'ai une autre méthode. Je compte jusqu'à 3. Si à 3, t'es pas au lit, je te pète les genoux. Eh bien, avec ma méthode d'éducation, mes enfants passent directement du choc à la résignation. En même temps, mes enfants, ils sont encore en bas âge, donc c'est assez facile. Et je sais pas trop comment je vais gérer leur sexualité et puis leur mère non plus. Et mon fils, par exemple, il veut se marier avec un copain de classe. Bah, moi, j'adorerais. Non, mais attendez, je suis un comédien, ma femme travaille dans la culture, on est de gauche, un fils homosexuel, c'est le dernier truc qui me manque pour briller en société. Mais moi j'adorerais qu'à l'adolescent, je sais pas, il m'annonce qu'il est tombé amoureux d'un migrant, un beau migrant. Ah oui, en situation irrégulière, on inviterait des copains un peu coincés du cul, ils se rouleraient des pelles devant eux, et quand ils seraient choqués, ils nous feraient « Ou quoi, ça vous gêne ?» Oh, le gros kiff. Avec ma fille, par contre, j'ai pas envie d'être le genre de père qui attend tous ses petits copains avec un fusil, je trouve ça, mais c'est complètement has-been. C'est le meilleur moyen en plus pour qu'elle te cache des choses. Non, moi je voudrais être comme mon pote Jean-Christophe, alors lui, il a tout compris. Sa fille, elle a 17 ans, c'est le père moderne, sympa, il accueille ses petits amis à la maison, il leur offre toujours un apéro, et toujours souriant, et quand il les sent détendus, il leur demande mais...
oh, dites les jeunes, vous êtes mignons ensemble, est-ce que vous savez comment on fait une fellation? C'est important de bien savoir les faire. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer, comme ça, quand vous vous y mettrez, eh ben, vous penserez à moi.
Avec une banane.
Eh ben, c'est sûr, à première vue, comme ça, on se dit, ça a l'air tordu. Mais comme il m'a dit, jusqu'à aujourd'hui, pas un seul de ses copains n'a voulu passer la nuit à la maison. C'est un génie. Tout ça pour dire, Isabelle, que si parmi nos auditeurs, il y a des pères ou des mères qui, comme moi, ont le sentiment d'être à la ramasse avec leurs enfants, allez voir Mon Poussin, je vous jure, ça fait relativiser.
Absolument.
Merci. La bande originale.
Dans quelques instants, nous recevrons un auteur, l'auteur d'un livre sur la rage potentielle des adolescents, Daniel Marcelli. Mais d'abord, on va écouter justement la musique que vous nous avez préparée, Isabelle Nanty, avant de reparler de Mon Poussin. Non, elle écoutait en 1980 Michel Polnareff.
Quand tu dors près de moi, j'ai le cœur au bout des doigts.
Je t'aime.
C'est pas pareil, hein.
Il le fait mieux, ouais. C'est sûr.
Différent.
Mais avant.
Quand tu pleures dans mes bras, j'ai les yeux qui pleurent pour toi.
1980, vous écoutiez Michel Polnareff et vous étiez au cours Florent. Vous avez d'abord étudié au cours Florent avant d'enseigner.
Oui.
Là-bas, c'était Francis Juster, votre prof.
Alors, la première année, c'était Rémi Chenille.
D'accord.
Le prof révélateur. Et ensuite,
j'ai eu
qui vous a autorisé, vous dites, votre créativité, c'est ça?
Ouais, non, mais il était génial. Hein. C'est quelqu'un que j'adore. Et ensuite, j'ai eu Francis Huster qui m'a vraiment, en fait, fait découvrir le métier lui-même.
Ça veut dire quoi, autoriser la créativité, quand on entend que finalement, les actrices, les acteurs doivent répondre aux consignes, aux conseils, aux ordres, entre guillemets, du metteur en scène ou du réalisateur?
Ah, c'est intéressant. Elle est où la créativité? Elle est...
Il était échaudé avant, donc il a
décidé. Non, mais je comprends très très bien, c'est bien comme question, ça. Alors, c'est un... Comment on appelle ça?
Elle ondule du corps, j'aime bien.
C'est un mixte.
Un harmonieux paradoxe.
C'est justement harmoniser ces deux choses-là ensemble.
Ce que Francis Huster vous a apporté, c'est la rigueur, c'est la manière de travailler, sa mémoire peut-être, parce que on parle pas beaucoup de ça, mais il faut aussi une mémoire incroyable pour jouer au théâtre.
Francis Huster, surtout, c'était un fou créatif. C'était quelqu'un qui avait une énergie de travail folle et original, très très drôle dans la vie et tout. Donc moi, il avait une énergie de travail folle et on le suivait toute la journée.
On rappelle que Francis Huster est toujours vivant.
Il est pas mort.
Oui. Vous parlez du passé.
Mais quand je dis était, c'est que dans l'époque où je l'ai connu et où c'était mes débuts dans le théâtre et tout ça grâce à lui.
Dans ces années 80.
Les années 80.
En 80.
Et Michel Polnareff, c'était bien.
Vous voulez en dire quoi de Michel Polnareff? Vous l'écoutez toujours aujourd'hui?
Non, mais franchement.
On rappelle que Michel Polnareff est toujours en vie également.
Non, je l'écoute plus, mais cet album-là, il était génial. Toutes les chansons étaient des tubes.
Ouais, il y avait radio dessus, il y avait Tam Tam.
Ouais, c'était original. Et puis moi, j'aimais le Polnareff de tous les bateaux, tous les soleils,
Non, les oiseaux.
Love Me.
Tous les bateaux, tous les oiseaux.
Il y a des bateaux aussi dans la chanson.
Oui, je dis tous les bateaux, tous les oiseaux.
Il y a des soleils ou pas alors?
Eh bien, il y a des soleils aussi.
Peut-être.
On parle de qui?
Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils.
Ah ouais.
C'est vrai, ça. C'est vrai.
Alors,
c'est vrai.
Je bloque ces paroles.
1990, vous écoutiez Michel Jonas.
Une prière qui commence par fait que rien ne nous sépare et que jamais rien ne s'arrête ni les jours.
Déchirement, cette chanson. Déchirement. Quand vous écoutez de la musique, vous êtes dans quelle circonstance?
Position allongée.
D'accord. Mais est-ce que vous écoutez la musique quand vous êtes triste, quand vous êtes heureuse, ou peu importe d'ailleurs, vous pouvez être dans tous les états
En tout cas, ça me rend extrêmement heureuse. La musique, c'est vraiment, je pense, un bon médicament. C'est le meilleur. Et quand on ne peut plus du tout écouter de musique, ça m'est arrivé. Par exemple, ça m'est arrivé de ne plus pouvoir écouter de chansons. Mais il y a quelque chose qui résiste à ça, c'est Bach. Jean-Sébastien Bach. Alors lui, il résiste à tout et c'est la grâce. Et je pense qu'il est... C'est un envoyé de l'au-delà.
Ça veut dire que le matin, vous vous réveillez, vous mettez tout de suite la radio?
Non,
ou
je mets
disques.
La radio, moi. Je suis
pour les infos.
J'ai mon petit côté vieille institutrice.
Donc, info.
Donc, j'ai France Inter, hein, je le
D'accord.
dis franchement.
Très bien. Change rien.
Voilà.
Mais c'est pour l'information.
Pour l'info... Et puis les émissions qui suivent l'info le matin.
Est-ce que par exemple, si vous devez faire un dîner entre amis, vous mettez une musique ou pas? Ou est-ce que simplement le son de la voix des amis suffit?
C'est un dîner, c'est pas une partouze, Nagui.
Non, je mets pas de musique quand il y a des gens. Non.
Nagui.
Non, c'est vraiment un truc, je trouve...
Tu m'expliqueras comment tu organises Étienne, parce que là, je vois pas très bien.
Ouais, vous étiez à la dernière, Nagui, s'il vous plaît.
Oui, peau de bête, il y a
la dernière, t'en fais plus.
Et pour parler de Michel Jonas, qui est un génie et qui a bercé beaucoup
et très bon comédien, et très bon comédien
très
aussi.
Très bon comédien, mais franchement, il nous manque comme chanteur.
Non, mais oui, il est toujours vivant.
Mais il nous manque quand même.
Oui, d'accord. Il est en tournée. Il continue de faire.
Moi, je suis pas dans le passé, hein, Nagui. C'est juste vous qui m'avez demandé ces années-là.
Oui,
donc, j'en profite pour parler des gens qui, dans ces années-là, ont accompagné ma vie. Je sais pas. Je m'intéresse aussi
quelque
aux choses
me
qui se font maintenant.
Et le manque d'envie de mettre des claques est en train d'évoluer.
En 90, c'était donc Tati Daniel. Tout à l'heure, vous disiez que c'était une souffrance, une douleur pour vous d'avoir à donner une véritable gifle au cinéma. Plus peut-être que de la recevoir. En tout cas, vous n'aimiez pas ça. Mais ce rôle qui a peut-être été détonateur pour ces demandes de claques au cinéma, vous dites, vous a ouvert beaucoup de portes.
et surtout une confiance, enfin, et une rencontre avec Étienne Chatiès. Vraiment, qui est un mec d'une grande fidélité et d'une grande intelligence. Et j'ai eu souvent des conversations avec Étienne.
Lui aussi, il nous manque au cinéma.
Mais ouais. Mais il a vraiment inventé un style et
une écriture.
Et puis, être dirigé par lui, c'était très plaisant aussi. C'est vraiment ça que j'aime, hein, c'est d'être dirigé en fait.
Alors justement, et dirigé aussi, vous aimez, vous le faites extrêmement bien. Vous avez réalisé en 2003 votre film, vous écoutiez Laurent Voulzy.
Je suis venu pour elle.
Elle est pas mal ma BO.
Ouais, super.
Mais très française.
J'ai fait cet effort, parce que j'aurais pu parler de Supertramp dans les années
c'est bien aussi.
80 et tout ça, mais... J'ai choisi les Français.
Et vous le dites,
le film Bison, il a accepté que cette chanson-là soit au générique de fin.
C'est ça ce qui est bien aussi dans votre métier, c'est que des rêves se réalisent.
Ah ouais.
Vous avez la chance de pouvoir vous demander, puis on vous dit oui.
Mais c'est dingue. J'ai rencontré des icônes de mon enfance, de ma jeunesse, de ma vie tout court, grâce à mon métier. C'est génial.
Et ce Bison, initialement, vous deviez jouer dedans ou vous, dans votre esprit, quand vous avez monté le projet, ou c'est Claude Berry qui vous a forcé un peu?
Non, je crois même que Claude Berry, il m'avait rencontré... Enfin,
le producteur,
il m'avait rencontré par Alain Chabat, quand j'ai joué dans Astérix, qu'il produisait. Et je crois qu'au début, il voulait plutôt que je réalise des films qui étaient déjà écrits. Et
d'accord.
Puis j'ai fait un coup de bluff, j'ai dit, mais moi, je suis en train d'en écrire un.
Qui n'était pas vrai.
Non. Et il m'a dit, mais il sera prêt quand? J'ai dit, le 16 mars.
Oh non!
Je vous jure que c'est vrai.
Oh, mais on était le combien? Le 15?
On était le 16 janvier.
Donc vous donné 3 mois.
J'ai écrit le Bison avec Fabrice Roger Lacan. On lui a donné. Et il ne voulait pas qu'Edouard Baird joue dans le film. Et donc, j'ai dit, moi je l'ai écrit pour Edouard Baird. Donc, j'ai disparu. Puis un mois plus tard, il m'a appelé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu glandes? On le fait ton film ou pas? Je dis, vous avez dit que c'était pas avec Edouard Baird. Et moi, je l'ai écrit pour lui. Bon, allez, prends-le. Et le 16 avril, j'entrais en préparation. Le 16 juin, je tournais. C'était incroyable, cet homme.
Et dans le film, il y avait Pef et Edouard Baird, deux ex-élèves.
Ouais, enfin. Surtout deux actuels amis.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est pas une histoire de la fidélité, de tout ça. La fidélité, c'est une satisfaction. Ce sont des compagnons de route. J'ai un frère qui s'appelle Pascal, que j'aime beaucoup, mais ce sont aussi mes frères un peu de Paris, enfin de ma vie d'aujourd'hui.
Et vous retrouvez donc l'un de ses frères, Pef, dans Montpoussin, le film qui sort mercredi avec c'est un peu demain quand même, un mercredi à la vie,
ouais.
C'est laquelle,
donc combien de dodo?
Ça va tellement vite.
Un dodo
et on y est. Ouais.
Un petit dodo et hop.
La sortie de Montpoussin. Alors justement, Daniel Martelli, merci de venir à ce micro.
Merci Daniel.
Vous
bonjour.
Êtes pédopsychiatre, Daniel. Professeur en faculté de médecine. Vous publiez Avoir la rage, du besoin de créer à l'envie de détruire. C'est vrai que cette expression avoir la rage va bien avec les ados. Le point de départ du film, c'est le chagrin d'amour. Est-ce que le premier chagrin d'amour se définit, se caractérise comment?
Je vais être moins drôle que vous tous, hein, parce que le premier chagrin d'amour, c'est effectivement quelque chose qui est douloureux, particulièrement douloureux, parce que c'est la perte d'une illusion. La perte d'une illusion, c'est l'illusion, au moment du chagrin de premier amour, c'est l'illusion qu'on va trouver le complément qui nous manque et qu'avec ce complément qui nous manque, on retrouvera la totalité de soi et une sorte de complétude absolue.
Mais quelles que soient les générations, on idéalise encore les histoires d'amour en se disant qu'elles vont durer, même si nos parents ont divorcé ou sont séparés, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants de parents séparés. Oui. Est-ce qu'ils croient encore à l'amour idéal?
Bien sûr, l'expérience émotionnelle des autres ne sert en général pas aux personnes. Il faut toujours repasser par les chemins. Alors effectivement, ce désir de complétude, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la puberté et la sexualité peuvent être un gain, la sexualité, c'est pour les êtres humains une douleur relative. Sexualité veut dire séparer, qui veut dire couper. Entrer dans la sexualité, c'est entrer dans la coupure. Et entrer dans une forme de manque...
Et c'est la coupure du cordon qui nous lie à nos parents?
Non, c'est la coupure de la complétude. Si vous n'êtes qu'un homme, vous n'êtes pas un homme et une femme, et vous n'êtes qu'une femme ou pas un homme. Et au fond d'être tout être humain, il y aurait ce désir d'être à soi-même sa propre totalité. et la relation amoureuse.
Je suis un peu perdu, monsieur.
Une monade.
C'est trop compliqué.
Non, c'est trop compliqué.
Ah, excusez-moi.
Une monade.
Non, non, mais en même temps, faites abstraction de lui.
Oui, oui, c'est ça.
Il comprendra rien.
Avec la sexualité, Daniel, on permet de reconstituer le mythe platonicien de l'homme et de la femme, de l'homme et de l'homme, de la femme et de la femme.
Vous m'avez compris. Voilà. Je vous remercie.
Mais et à propos des paliers de la déception, enfin de la,
oui.
La blessure, la désillusion. Oui. Moi, je trouve que dans la vie, plus on passe des paliers déceptifs, c'est-à-dire palier déceptif de l'amitié, palier déceptif de l'amour, palier déceptif du métier, etc. Oui. Tout d'un coup, là, on peut décoller en fait.
Plus on grandit.
C'est vraiment quand on a fait tous les paliers déceptifs que.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, la plupart des artistes ont traversé des périodes douloureuses de déception à répétition.
Et de doute, oui.
Et de doute. Et à un moment, ils en surnagent et ils en émergent.
Alors, restons sur l'adolescence et sur la base,
complétude.
La base de l'histoire de ce film. Sur Mon Poussin, oui. Avec le fait que les parents se disent on va te donner des conseils. Est-ce que les parents doivent ou peuvent aider les enfants dans ces...
Moi, je crois que mon voisin l'a presque tout dit. Oui, il a presque tout dit. Je crois que la grande vertu des parents, peut-être, souvent, c'est de se taire et d'accompagner.
Ça y est, t'es pédopsie. T'es pédopsie, mon frère. Enfin,
c'est de se taire et surtout
validé par un expert.
Parents.
Surtout de pas en faire trop.
Le risque est quoi, finalement? Que l'adolescent veuille se démarquer de ce que les parents vont dire, et quoi que les parents disent, l'ado a envie de faire l'inverse?
Bah, d'abord, on peut pas se mettre à la place de l'autre. Pour les parents.
Non, mais le côté, le papa qui va voir son fils en disant « Moi aussi, fiston, j'ai connu ça, je vais te dire. »
Ça, c'est faux, c'est factice. Enfin, l'adolescent, il s'en fout. Lui, ce qui importe, c'est son temps présent. C'est pas ce que son père a vécu il y a 20 ans. Et ce qu'il veut, c'est sa douleur présente. Donc, on peut pas complètement se mettre à côté de l'autre. C'est pour ça que les excès, aussi bien les excès dans la forme, bon, un de perdu, 10 de retrouvé, ce genre de mépris qui a eu lieu, c'est pas bien. Et l'hyper-empathie. « Ah, mon chéri, j'ai vu des... »
Mon poussin, c'est
mon
ça.
Poussin, des parents qui se dépriment parce que le petit ami est parti.
Cette souffrance appartient à l'enfant. Et
oui,
pas,
voilà,
pas
ça fait une confusion des sentiments. Oui. Et donc, être présent là, être disponible, avoir des paroles aimables de la quotidienneté.
Mais à l'inverse.
Je vous ai dit, je serais pas drôle.
Ce qui pourrait, non, c'est pas grave. À l'inverse, c'est intéressant. Ce qui pourrait passer comme étant de la nonchalance de la part des parents, en se disant bon, de toute façon, ça va passer, et avoir de l'empathie quotidienne, comme vous la définissez, c'est peut-être pas assez pour un enfant.
Mais rien n'arrivera à combler 100%. Quand vous avez perdu un être cher, rien n'arrivera à le combler. Il y a une douleur,
il y a un travail à faire de perte.
Perte
de
amoureuse ou perte de décès, les deux, pour la personne qui perd, un premier amour, c'est une perte.
Un chagrin d'amour, c'est un décès pour vous.
On a la déception, de quelque chose de profond, et la perte de cette illusion, comme disait Isabelle tout à l'heure.
Dans le film, ils sont parents poule, il appelle Mon Poussin, ils sont omniprésents dans les câlins, ils l'étouffent, c'est évidemment la dernière chose à faire.
C'est en tout cas pas ce qu'on peut conseiller à certains parents, c'est dans cette hyper empathie, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est trop. Et l'adolescent, il perd on lui vole son émotion, d'une certaine manière. Pouvoir survivre, c'est en sens la première déception, on souffre, on en survit, tous les parents savent qu'on en survit, l'adolescent, lui, ne le sait pas encore. Et il faudra qu'il fasse cette expérience.
Ça peut le mener à la dépression. Tout à l'heure, on parlait malheureusement des d'enfants défis. Qui pensent à se suicider. Comment gérer des situations aussi graves que la vie ne vaut pas d'être vécue, j'en ai marre, elle m'a quitté, il m'a quitté, je vais me tuer.
Il faut bien différencier les émotions tristes transitoires, comme ça, de la dépression pathologique, qui est une sorte de boule de neige, bien sûr, qui arrive aussi. Le premier amour, en général, ça ne donne pas une dépression pathologique, sauf s'il y a, chez cette adolescente ou cet adolescent, des facteurs de risque, une vulnérabilité personnelle, des histoires antérieures d'abandon ou de délaissement, des choses comme ça. Parfois, justement, des conflits de famille avec des couples qui sont déchirés, et souvent, d'ailleurs, les adolescents qui sont dans des familles comme ça, qui ont des conflits importants, cherchent au moment de l'adolescence à faire une sorte de couple. où ils se collent l'un à l'autre. Et là, ça peut entraîner effectivement des déchirements extrêmement douloureux qui peuvent conduire jusqu'à une forme de dépression.
Frédéric ?
Moi, j'ai une question par rapport à justement au fait d'avoir la rage. Est-ce que la radicalisation dont on parle beaucoup des jeunes aujourd'hui n'a pas plus à voir avec justement cette étape de l'adolescence qu'avec justement des phénomènes de religion
de spiritualité,
ou de prosélytisme, de spiritualité ?
Vous êtes très doué, vous êtes en train d'écrire mon livre.
Donc bah c'est effectivement, 50%. Allez. Vous savez, ça arrive très souvent ici. Hein.
Déjà, ce qui est très gênant, c'est qu'il est déjà publié, avant que tu le réécrives.
Non, non, mais vous dites exactement ce que je pense. Si effectivement le problème de l'islamisme, etc., les problèmes politiques, les problèmes sociaux viennent en second, ce que je pense, c'est qu'effectivement aujourd'hui les adolescents ont des formes de rage extrêmement intenses. Alors pourquoi ils ont ces formes de rage, j'essaie aussi de le dire, mais et que face à ça, il y a deux grandes voies pour les adolescents. Cette rage, elle les pousse soit à s'exprimer et à trouver des chemins de la créativité où ils sont reconnus, où ils trouveront reconnaissance. Aujourd'hui, les êtres humains sont des individus et ils ont besoin d'être reconnus. C'est le paradoxe. Et soit ils n'arrivent pas à être reconnus et ils ont cette rage qui s'enferme en eux avec la destruction. Et quand on n'est pas un génie créatif, on peut toujours être un génie destructeur.
C'est ce qu'il y a dans votre livre, Daniel Marchi. Avant de l'évoquer, on voit aussi dans le film que cette crise d'adolescence ou ce chagrin d'amour renvoie évidemment les parents à leur propre amour ou à leur propre chagrin d'amour d'adolescent.
C'est la présence d'un adolescent dans un couple, c'est d'ailleurs une raison pour laquelle souvent les couples n'y résistent pas, c'est que ça réveille souvent dans ces couples les émotions, la sexualité, tout cela qui était un petit peu apaisé ou qui prenait un train un peu tranquille dans le couple qui est ensemble depuis 15 ou 20 ans.
Tout
et d'un seul coup,
tout rejaillit.
Cette adolescence, cette juvénilité, ces petits copains, ces petites copines, ça suscite des émois dans le couple.
Est-ce qu'il y a du bon à ces chagrins d'amour ? Est-ce que c'est finalement structurant et ce sont les fondations sur lesquelles on va se construire ?
Vous avez la voix qui hésite un petit peu. Vous avez eu un chagrin d'amour dans votre enfance.
Non, j'hésitais entre fondation et fondement. Vous voyez, après, je dis fondement, c'est un peu trop anal comme référence, donc on va passer à la fondation.
C'est pas féral.
Non, c'est pas du tout.
C'était moins glamour. Hein.
C'est pas du tout, oui, absolument. Et c'est pas du tout psychologique, c'est juste un problème de culture générale. Il manquait des mots.
Mais effectivement, il y a un enjeu qui peut donner le
ça,
meilleur.
Il y a un enjeu, oui.
Qui peut donner le meilleur, mais qui peut parfois donner quelque chose de destructeur. En tout cas, effectivement, la difficulté, c'est quand effectivement l'adolescent ou l'adolescente répète plusieurs fois les mêmes choses dans les mêmes types de relations. Ça, c'est ennuyeux.
Chez Albin Michel, donc, vous avez co-signé avec Frédéric Sigrist, qui ne touche pas 20 centimes. Daniel Marcelli, vous signez Avoir la rage, le besoin de créer à l'envie de détruire. Ça pourrait être l'inverse aussi, l'envie de tout détruire qui revient
non, justement.
Est-ce que l'envie de détruire peut devenir aussi une création ?
C'est le travail, je dirais, de la déradicalisation. Initialement, c'est l'envie de créer, le besoin de créer. Et si ce besoin de créer, l'adolescent n'y arrive pas,
est frustré,
alors
envie
à ce moment, il peut être pris par l'envie de détruire.
C'est chez Albin Michel. Merci Daniel d'être venu nous expliquer la vie à ce micro. Daniel Morin, on le voit, quand on est ado, le premier chagrin d'amour, c'est un passage obligé, ça fait mal, on souffre, on l'a dit, on a l'impression que la planète entière s'écroule, mais c'est la vie, et même ça peut rendre plus fort. Et on
Putain, plus que 3 jours, J-3, J-3, monsieur Guy, J-3, et J-3 avant quoi ?
Les vacances.
Les vacances, oui, mais le plus important, J-3 avant la fermeture de votre clapet. j'espère que je vais
tenir. Docteur, fais quelque chose.
C'est long, 3 jours, cette saison. Vous m'avez flingué, monsieur. Jusqu'au bout, vous m'aurez tabassé d'angoisse avec vos pensées frelatées. Et là, comme on dit en vocabulaire technique, c'est le pompon. Oh, le chagrin d'amour, gna gna gna, la souffrance, gna gna gna, ça rend plus fort. Mais merde, sécurité, sortez-le d'ici, vigile. Ah, qu'est-ce que vous en savez, vous l'homme au cœur de pierre, au sexe de silex, qui par son frottement incessant attise les incendies physiques des vertus les plus inifugées.
Waouh. Elle était bien cette phrase.
C'est du vécu. L'homme qui plaque plus vite que le 15 de France. Combien de fois j'ai vu, monsieur Guy, des femmes, jeunes et moins jeunes, belle ou moins belle, poilue moins poilue, consentante et attachée, vivante ou décédée. Bref, sortir en sanglots de votre bureau jacuzzi rempli moitié flotte, moitié mitosile. Hein ? Toutes ces pauvresses qui avaient cru à votre amour. Je ne sais pas si aujourd'hui elles sont plus fortes, mais quand je les croise, elles sont très très faibles. Heureusement que dans ma très grande mansuétude, j'étais là pour les réconforter, les réconcilier avec l'amour, leur faire découvrir les plaisirs et la joie qu'on peut dénicher dans la douleur psychologique et l'humiliation physique.
La voiture balai.
Absolument, absolument. Faut pouvoir l'appeler Leïla, hein, c'est pas ombrage. Alors oui, ça rend plus fort, mais pas c'est dans gratuit, la période ado, période synonyme de crétinerie absolue, de niaiserie intense, de totale ignorance des pratiques ultimes de l'infamie partagée, mais à sens unique. Pour résumer, monsieur Guy, tout ça, ça demande de l'expérience. Comme quoi, une fois encore, désolé, mais vous avez dit...
N'importe quoi.
Merci, Daniel Moreau. Isabelle Nantier est avec nous chez Midi.
Monsieur Guy. Et on retrouve Nagui, la bande originale, la suite.
Merci Sébastien Hazard, rendez-vous toute l'après-midi pour nous informer. Et à tout le retour de l'information, ça sera à 13h. Merci. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoboudadi.
Bonjour à tous.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Daniel Morin. Ah,
bravo Daniel.
Tom Villa. Et sa copine Isabelle Venture. Un petit mot quand même de Munch avant de reparler de Montpoussin, le film qui sortira demain au cinéma. Munch, c'est un succès sur TF1. Bravo.
Abrégi, géré par Frédéric.
Formidable. À tel point qu'il y a une saison 2 qui est annoncée. Vrai, faux, intox ou pas? Vous êtes en tournage, vous l'avez déjà tourné.
C'est vrai.
Non, on n'a pas tourné encore.
D'accord.
C'est à l'écriture.
Est-ce que là, justement, sur l'écriture, vous avez votre mot à dire?
Tu peux quand même. Quand
ah, moi, j'ai aucun mot à dire. C'est Isabelle.
C'est Isabelle l'atelier.
Non, moi, je dis rien. Mais le matin, quand on arrive, on refait un peu à notre.
À votre sauce.
Bah, notre.
Une mise en bouche, on va dire.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est comme il y a des langages juridiques, etc. On essaie de patiner ça pour pas que ça ait l'air d'être.
Jouer.
Parce qu'on a tendance.
Pas que ça ait l'air joué et que ce soit naturel, c'est
bah,
ça.
C'est-à-dire qu'on a tendance à jouer les fonctions qu'on ne connaît pas comme on les a vues jouer dans d'autres séries.
Oui.
Donc là, il faut patiner ça pour que, en fait, c'est des vrais métiers qui se font comme la vie. En fait.
Est-ce que là, vous posez déjà la question de savoir, serais-je prisonnière du rôle, du personnage, de la série? Je n'irai pas jusqu'à la 10e saison ou advienne que pourra, tant que ça existe, tant mieux.
Bah non, et on nous oblige pas. Hein.
Les Tuches, c'est aussi en tournage en ce moment. C'est une série, mais cette fois-ci, c'est au cinéma.
On a dit que Jean-Paul Rouve avait tout d'un coup la moustache qui réapparaissait, donc voilà, je me suis dit, tiens, Les Tuches, le retour.
Exactement.
Voilà.
Jean-Paul a retrouvé sa barbe, même sa moustache-barbe, et sa coupe de cheveux.
Oui.
Et alors là, on n'est plus à Monaco, on n'est plus aux États-Unis, on est où?
Ben, Jeff Tuche, président.
Ah.
Je suis de première dame dans Les Tuches.
Ah oui.
Moi, ça me rend dingue, Les Tuches. Ouais, ça me rend ouf.
Ouais.
J'adore.
Là, le slogan, c'est liberté, non, c'est égalité, fraternité. Mais voilà. Ça peut arriver. Dans certains pays, c'est arrivé. Hein, ouais. En tout cas, la même coiffure est arrivée au pouvoir.
Bon Poussin est donc le film qui arrive demain avec PEF, Isabelle Nanty, Thomas Oliveres, les ravissantes et douées comédiennes aussi que sont Leslie Medina et Manon Valentin. Manon Valentin jouant le rôle de votre fille, Leslie Medina étant la fiancée, celle qui brise justement le cœur de Thomas Oliveres.
C'est un scénario de Romain Prota.
Ah oui, c'est vrai qu'on ne parle pas assez de celui qui a eu la bonne idée de tout ça.
Et c'est un très bon scénariste. Il écrit beaucoup pour le cinéma maintenant. Et c'est
il est parti de quoi? D'un phénomène de société ou du vécu, une crise d'adolescence comme ça? C'est-à-dire avoir tellement de chagrin, enfin pour son premier chagrin, on pleurait tellement, première séparation amoureuse, d'avoir l'idée de dire, et si les parents devenaient des espèces de coachs mentaux et physiques d'ailleurs, pour faire oublier et faire passer pour la dernière des dévergondées cette fiancée en disant, mais non, allez, oublie-la, jusqu'à la photo sur le frigo, je peux le dire parce que c'est dans la bande-annonce, avec marqué grosse pute dessus. Une violence inouïe, les parents s'en mêlent et
avec autant de rage que la souffrance qu'ils ressentent pour la souffrance de leur enfant, si c'est pas trop alambiqué ce que je viens de dire.
Non.
Mais ce qui est important de dire dans les chagrins d'amour, de ma propre expérience, c'est que quand quelqu'un vous laisse, vous remettez en question absolument vous, en fait. Vous êtes nul, vous n'avez aucun intérêt, on ne voudra plus jamais de vous, vous ne le méritiez pas, etc.
Souvent, c'est vrai.
Souvent, c'est vrai de votre point de vue quand vous laissez, mais voilà. Donc en fait,
on fait tout pour se remettre ensemble, ce qui est peut-être aussi une erreur parce que d'un coup il y a eu un truc brisé.
Voilà, alors que c'est juste, vous n'êtes pas forcément le problème, c'est peut-être l'autre qui a un problème, Daniel.
C'est pas faux. Si on en parlait.
On peut rappeler le monsieur ?
Oui.
Et la musique dans ce film aussi très présente.
Ça c'est qui ?
Ça s'appelle Kobo.
Avant c'était Kobo.
Le premier c'était Kobo, ça c'est Rox.
Et puis il y a une chanson qu'on chante aussi.
Oui. Et puis oui, et puis il y a une chanson qui est chantée par Leslie Medina.
Ouais. Elle a une très jolie voix.
Très jolie voix avec un ukulélé. Elle, ouais, elle fait une nouvelle version de cette chanson de Bill Withers.
Une très belle voix, Elina.
Ouais, elle a une très jolie voix. Elle a une très jolie voix, mais surtout c'est extrêmement drôle la manière dont cette, enfin émouvante la manière dont cette chanson commence. Le, et c'est le, ouais, et c'est le twist justement. C'est
là
où
le chien qui
tout,
chante.
Et c'est là où tout. Ouais, c'est là où tout va basculer. C'est là où tout va basculer ensuite sur la manière dont cette chanson finit avec les paroles qui évoluent. Non, c'est un très bon film, très très drôle, qui peut se voir en famille. Allez-y. Alors je sais pas si c'est bien que les parents aillent avec les ados, mais que les ados y aillent dans leur coin. Que les parents y aillent dans leur coin, en tout cas, peu importe.
Sans, vouloir, c'est très sans drôle. Spoiler, faut quand même dire que j'ai fait femme canon.
Mais ouais,
pas canon au sens elle est canon, canon, mais femme canon au, premier, au sens premier du terme.
Sans spoiler.
Et puis c'est la fête du cinéma en ce moment, ouais, jusqu'à demain, donc c'est 4 euros la séance, tarif demain, unique dès la première séance.
Très bien, Mon Poussin au cinéma rappeler. Demain, allez le voir. Vous ne le regretterez pas, contrairement à ce qui va se passer maintenant.
Qu'est-ce qui va se passer?
Bah, si vous le voyez, vous allez regretter. C'est Daniel Morin.
Catastrophe, enfer et malédiction.
Attends d'avoir fini ton papier, d'abord.
Sont cela les prémices d'un Armageddon tout proche? Après la vague de canicule, on bascule dans l'horreur. Qu'est-ce qu'on apprend? Manuel Valls quitte le Parti Socialiste.
Non.
Mais non, oui, non, reste, putain, Manu, reste. Bon, en même temps, le PS n'existe plus, ok, mais c'est pas une raison. Et puis avec toi, on avait l'habitude que tu retournes ta veste, pas que tu la laisses au vestiaire. Allez, Manu, reviens, merde, fais pas le con. De toute façon, t'es trop vieux pour rejoindre l'armée En Marche. Les plus vieux, là-bas, ils ont 40 ans. J'ai appris que chez En Marche, pour les prochaines législatives, on préparait déjà les futurs candidats qui aujourd'hui sont en CM2. T'es trop vieux, Manu, tu vas avoir 55 ans le 13 août. T'es un yeuve, comme on dit chez les jeunes. Déconne pas, Manu, reviens, Solferino. Tu seras tout seul, peut-être, mais au moins, t'auras de la place. Tu pourras choisir un grand bureau. Ou alors... Ou alors... Mais oui. Mais viens travailler à Radio France.
Non.
Mais si. Viens faire des chroniques chez... Viens faire des chroniques chez Augustin Trapenard. Il est super cool, Augustin. Il est cool, mais il est sordide. Toi, avec ton sens de la déconne, tu vas mettre le feu chez Augustin. Ça va être trop bien. Allez, viens, on prépare ton contrat. Ça tient sur un post-it. Ça se fait hyper vite fait. Oh, bien, ça va mieux. On a peut-être une solution pour Manu. Ah, ça va mieux, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les mauvaises nouvelles s'enchaînent, bordel. Jean-Pierre Raffarin, jetez l'éponge. Le bulldog du Poitou quitte son siège de sénateur. Mais comment peux-tu, JP, sénateur, 7000 boules par mois, un resto d'enfer, tout ça pour créer une ONG, dont le but est d'alerter contre les risques de guerre qui nous menace. Ouah, non, là, respect, j'ai jamais vu un intitulé de poste qui fasse plus emploi fictif. Mais sinon, à part ce grand respect que j'ai pour le foutage de gueule, non, déconne pas, reste dans la vie politique. Tu vas pas nous manquer. Mais on s'était habitué, voilà. Ou alors... Mais oui. Viens travailler à Radio France. Mais oui, viens faire des chroniques chez Laure Adler. Oh là, crois-moi, camarade, on a besoin d'un peu de détente. Bon, chez Laure, c'est vrai qu'on se marre déjà bien avec ces interviews d'artistes maudits et mutilés, victimes de la tyrannie d'un pays qu'on s'en fout. Mais bon, plus de déconne ne ferait pas de mal. Allez, viens. Bon, ça va mieux, là. On a peut-être une solution pour JP. Ça va mieux, mais en même temps... Voilà, la mauvaise nouvelle de chez Mauvaise Nouvelle, là, celle du jour, me ressort à la face... Herbert Léonard est malade. Oui, ah, c'est
non,
tombé.
Mais,
hier.
Non, mais rip, non, ça c'est.
Non, non, mais il est malade. Il est malade. Il est malade. Herbert Léonard, ah, bon Dieu, le lover. Herbert, la peau vérolée la plus sexy des années 80. Oh, mon Dieu, mais quel talent, quelle fougue, quel entrain. Non, mais cette chanson peut changer le monde. Elle rend heureux, elle rend amoureux, elle entraîne des maladies aussi. Oui, c'est vrai, mais quel bon gros tube. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, entre Manuel, Jean-Pierre et Herbert, Bah, ça va pas très fort ma journée. À vivement demain qu'on célèbre tous ensemble l'anniversaire de la naissance de Pierre Laval, l'ancien premier ministre du maréchal Pétain. Là au moins on va se marrer, on va parler du bon vieux temps et ça va nous faire un bien fou. Allez, vivement demain.
Et on souhaite une bonne santé à Herbert Léonard. Merci Daniel Morin.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Isabelle Nanty, Pierre-François Martin Laval, autrement dit PEF, Thomas Oliveres, Manon Valentin, Leslie Medina, l'histoire de ce premier grand amour qui devient un premier énorme chagrin d'amour, mais pris en main par des parents, et des parents qui sont encore plus peut-être gamins et ados dans leur je crogne, les bisous, les gratte-gratte, les fais-moi tel accent pour qu'on fasse des bisous et des câlins.
Ils et sont le un sens peu, de la vengeance.
Ils sont un peu cucul à praline quand même, dans leur manière de s'aimer. Hein.
Dans la manière de s'aimer, mais dans entre la manière de, d'aimer leurs enfants.
Ouais.
Et aussi dans la manière de, d'haïr. Ils sont un peu cuculés, pralines.
Totalement. Ouais. Totalement.
Et la haine ne sert à rien.
Pétage de cap
la
sur
rage,
pétage
oui,
de cap.
Oui, mais la haine.
Cette désintox amoureuse donne Mon Poussin qui sort demain au cinéma, qui est extrêmement drôle. Le brouillon de culture oui. de Leïla pour Isabelle Nanty.
Oui, Isabelle, je vous sors de la promo un petit bol d'air. Ouais, c'est notre merci. Brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous, Isabelle.
L'association s'appelle L'un est l'autre, EST, je suis toi et tu es moi. Et on prépare la cuisine le vendredi pour servir un plat chaud. Et on nourrit jusqu'à présent une moyenne de 500 à 600 personnes, chaque samedi midi, chaque dimanche midi. Et notre fierté, c'est d'être la première association qui accueillons des tiges, donc des gens qui sont condamnés à faire des travaux d'intérêt généraux. Et notre fierté, c'est quand ils reviennent en tant que bénévoles après avoir fait le service.
Voilà, c'est Jean-François, le président de l'association L'un et l'autre, dont vous êtes la marraine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Isabelle ?
Alors, il y a d'autres marraines et parrains maintenant, mais c'est quand même une association qui a été créée par deux dingues, trois, quatre dingues qui tout d'un coup ont vu des gens avoir faim dans la rue. Ils ont commencé à faire à manger dans leur jardin. Et puis, il y a eu 100, et puis 200, et puis 300 personnes. Et 2000 repas sont servis maintenant par week-end. Et c'est des initiatives comme ça, un peu folles, de se dire, tiens, bah, je vais faire à bouffer à ces gens-là. Mmh. Et moi, ça m'a beaucoup apporté d'aider cette association quand je l'ai fait. Parce que... j'ai tout divisé par deux après. Un repas, ça, c'était 2 euros. Enfin, les gens ne payaient pas 2 euros. Oui. Mais pour pouvoir faire un repas, il leur fallait à peu près 2 euros. 1 euro, 2 euros. Et après, quand vous achetez un truc à 200 balles, enfin à 200 euros, bah vous dites, je le prends ou je donne 100 repas à l'un et l'autre. Donc ça a relativisé un peu toute ma vision de la consommation, on va dire. Et, ouais. et puis,
Les gels de valeur des choses.
Voilà. Mmh. Mais c'est un puissant fond hein, quand même. Tout ce qu'on devrait faire pour aider les centaines de milliers d'associations, de gens dans la difficulté.
D'autant que ça s'aggrave, dans le sens où il y a de plus en plus de travailleurs pauvres qui travaillent et n'ont même pas assez pour pouvoir manger.
Ouais. Oui, c'est pas simplement les gens qui sont dans la rue.
Oui, ça s'étend.
Oui, les étudiants, les personnes âgées, enfin, la précarité s'étale à beaucoup de choses. Et moi, ce qui me surprend dans les programmes, ok, il faut penser à l'économie, je suis pas économiste, j'y connais rien, mais est-ce qu'un programme pourrait être centré sur le fait que tous les gens qui sont dans la difficulté vont être mais vraiment aidés, qu'on va trouver une solution pour ces gens-là? On sait que maintenant, il va y avoir... Bon, je me lance, mais... non, mais s'il va y avoir robotisation, c'est vrai qu'il faut penser à l'avenir et que les emplois ne sont plus les mêmes et qu'il faut créer des nouveaux emplois, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour aider concrètement aujourd'hui les gens qui sont vraiment dans la merde? Et il y en a de plus en plus. Alors, effectivement qu'il faut des riches, mais est-ce que les pauvres ne peuvent pas aussi avoir l'espoir de devenir riches? C'est la vraie question que devraient se poser les...
Il faudra aussi des gens qui s'occupent des robots. Enfin, c'est-à-dire, il faut les fabriquer, il faut les créer.
Ok, mais l'histoire n'est pas de régler l'histoire.
Ça ne suffira pas. Non,
je suis d'accord. Que faire que de régler le chômage et tout ça. C'est quoi le projet pour que tout le monde ait l'espoir de vivre dignement?
Et d'avoir sa place, oui. Absolument, et pas d'être écarté.
Et là, voilà. Cette association, l'un et l'autre...
Elle continue à servir des repas.
Et comment les gens peuvent participer?
Voilà,
ceux
bien
qui
sûr,
nous entendent,
il faut qu'ils aillent sur le site qui sera sur le... qu'on mettra
ouais,
sur
la page France Inter.
Sur la page France Inter. Et puis...
C'est l'un et l'autre.org. L'un et l'autre tout attaché et s'écrit EST. Hein. Voilà. L'un et l'autre.org.
Donc on peut cuisiner, on peut participer pour servir des repas.
Voilà, et c'est Philippe Rosset qui m'a fait rentrer dans cette association. C'était un des créateurs de cette association.
On poursuit avec un autre son, Isabelle.
Ah.
Scott.
Ah, oui, d'accord.
Vous avez reconnu,
mais
c'est
en fait,
le générique
de Game of Thrones.
De Game of Thrones.
Parce que je ne regarde pas la série.
Alors, on a parlé de votre succès tout à l'heure de la série Munch, mais on a découvert récemment que vous aviez une parenté dans Game of Thrones. Vous nous
avec
racontez...
Tormund. Tormund est mon cousin norvégien. C'est,
c'est le personnage.
Christopher Hivju, qui est un grand acteur norvégien, assez jeune, hein, il est beaucoup plus jeune que moi. C'est mon cousin. C'est le fils de ma cousine Liselotte Holmen. Hein, et son père et sa mère sont acteurs et actrices. Ma cousine est actrice. Et il joue dans Game of Thrones. Il a intégré la série en la deuxième saison et il est toujours pas mort, ce qui est quand même dans Game of Thrones un petit peu un exploit.
En plus, son personnage est assez ambigu entre guillemets. Il essaye de se démener. Il est conseillé pour ceux qui connaissent la série. En fait,
ce sont les héros et les gentils qui meurent.
Oui, c'est vrai, mais lui est pas négatif non plus. Il est un peu souterrain, on va dire. C'est un stratège. C'est le personnage de petite taille en fait qui est dans la série Game of Thrones.
Ouais, et qui est roux.
Tyrion, c'est vrai.
Ouais, il est Tyrion Lannister, qui est pour les fans, qui est le héros de la série.
Ah ouais.
Au-delà de Jon, c'est vraiment le personnage.
Et vous ne regardez pas.
Non, parce que quand ça a commencé, la série, c'était quoi, il y a 6-7 ans. Ma fille était petite et on était jeune.
Et vous pouvez pas la choquer.
Non, je trouvais que c'était d'une violence. J'avais regardé.
Il y a tout. Il y a du sexe.
Je vais vous révéler que votre cousin va jouer dans le prochain Avengers également.
Ah bon?
Oui.
C'est pas vrai.
C'est génial.
Mais il joue une nouvelle saison de Game of Thrones.
Ouais. Il joue également dans Avengers.
Il était dans Snow Therapy aussi. Oui.
Dans X-Men, le deuxième.
Et il était aussi dans un film avec Will Smith. Mais il joue super bien.
Oui, super
et
bien.
Ses parents, son
et vous
père
avez
était
jamais, vous
acteur.
Vous n'avez jamais joué ensemble?
Non, son père était acteur à l'équivalent de la Comédie Française à Oslo, au Théâtre National. Et sa mère est une actrice militante très, qui a fait sur des sujets de société, des one-man shows qu'elle tournait dans toutes les entreprises et tout ça. Et elle faisait des débats et tout.
Mais quoi, politique? Des one-man shows
ouais,
politiques?
Ouais. C'est une femme incroyable. Et elle est d'une drôlerie. Je rêverais de la faire jouer dans un film avec moi ou de la diriger dans quelque chose ici parce que c'est vraiment...
Mais vous avez proposé
justement le projet.
Ouais. Vous avez des contacts avec la famille au point bien de leur sûr, proposer de jouer,
mais
oui.
C'est ma famille de Norvège. C'est ma famille, j'ai ma cousine... au moins une fois par mois, enfin, ou en tout cas on s'envoie des mails tous les 15 jours et Christopher, je le rencontre quand je vais l'avoir en Norvège. Mais il est très pris maintenant. Et
oui.
Ouais, mais il reste très. D'ailleurs, ma cousine, elle en parle pas tellement.
C'est étonnant, pardon, que vous n'ayez pas la curiosité
de le voir jouer.
D'abord, la série est un carton mondial.
Quand j'aurai du temps. Parce que c'est quand même...
Vous allez prendre les coffrets et toutes les saisons, vous allez vous les
manger.
Oui,
quand j'aurai du temps. Non, j'ai vu les films dans lesquels il joue, mais je n'ai pas vu la série pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure.
D'accord.
Mais je la regarderai en cachette un jour.
C'est ça. Et pour finir...
En fumant des cigares.
Et pour finir, un cadeau, Isabelle, je vous offre Edmond Ganglion et fils de Joël Egloff. C'est en fait le livre aux éditions du Rocher qui a inspiré le film Grand Froid avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont et Olivier Gourmet. En fait, l'histoire, elle est assez simple. C'est
totalement barré.
Une histoire de pompes funèbres. Ils n'ont plus de travail, en fait. On est dans un petit village glacial. Il n'y a plus de boulot. Pourquoi? Parce que ça fait des années que personne n'est mort, tout simplement. Alors, comment ils vont faire pour relancer l'activité? Est-ce qu'il faut tuer des gens? Quels moyens il faut utiliser? C'est une sorte de, on va dire, de road trip funéraire, un peu macabre, une comédie macabre. Voilà.
Humour noir.
Humour noir, absolument.
Très
d'accord, merci beaucoup pour le cadeau.
Justement, est-ce que dans tous les projets, parce que vous êtes faites partie des grandes de ce métier pour aussi bien le jeu que la mise en scène et la réalisation, est-ce que on vous apporte des projets tout faits, clé en main, pour que vous apportiez votre caution, votre nom? Parce que personnellement, quand je vois quelque chose avec Isabelle Nanty, que ce soit à la mise en scène ou dans le jeu, je me dis, ce que vous aviez dit tout à l'heure sur PEF, si elle a accepté, c'est que c'est bien, donc je vais aller le voir.
C'est gentil. Non. En fait, on ne propose pas tant de choses que ça, depuis toujours. Hein. Mais maintenant, j'aimerais prendre du temps pour d'abord la vie. Parce que quand on travaille, tout d'un coup, on est prisonnier, pas du travail, mais du temps que prend le travail. Et donc, cette énergie qu'on donne, elle n'est pas donnée à des choses douces. Et voilà. Donc j'aimerais plus m'occuper de la vie et de, des gens que j'aime, et de mes amis, par exemple. Et puis, et voir ce qui va ressurgir de moi dans, comme envie, comme... voilà. Depuis 2-3 ans, je m'intéresse plus au monde et à ce qui s'y passe et tout ça. Donc je veux voir la synthèse de tout ça, ce qui en sortira et de ce que j'ai envie d'exprimer. Et puis de continuer à m'amuser avec mon ami Tom et Lucien Jean-Baptiste. Et puis
pour Munch, voilà. Et puis pour d'autres films, Tuche que vous tournez en ce moment, voilà, les profs vont...
Non, je crois pas.
C'est pas prévu ?
Je crois pas que c'est prévu.
D'accord. L'écriture d'un scénario d'un nouveau projet, nous sommes aujourd'hui le 27 juin. Ouais. Peut-être que dans 3 mois, vous pouvez livrer un scénario après
c'est
avoir
vrai,
travaillé cet été.
Attend.
Ouais, c'est jouable.
Ouais, c'est jouable. Alors, je vais vous dire, on va dire le 1er janvier 2018. D'accord ?
D'accord, ok, ça promis. Marche. M'envoyez un texto. Hein.
Ouais. Okay. Non, mais je leur envoie le
scénario.
Script.
À direct.
Bah, ouais. Texto, ça va être long. Hein.
Bah, je prends ça comme une commande.
Bien joué. Des excuses à présenter, Daniel.
Bah, désolé, évidemment, pour Michel Jonas, Michel Polnareff, Michel Huster, qui ont découvert ce matin que, selon Isabelle Nanty, ils n'avaient plus rien fait de bien depuis 1980.
Oh, parce que j'ai dit était, mais je me replaçais dans l'époque.
Mais vous êtes cash, c'est bien. Désolé pour la direction de l'info de France Télévisions, les proches de Leïla qui ont découvert ce matin une jeune femme qui, pour se détendre, aimait bien courir nue dans Paris, de préférence au milieu des bouchons. Bref, un être assez chevert, ça veut dire mi-chelou, mi-pervers. Désolé pour nos auditeurs mélomanes qui nous ont appelés pour réclamer la chanson préférée d'Isabelle Nanty après de très très longues recherches entre l'œuvre complète de Biolay, les faces B de Delerme, les faces C de Dominique I. Eh ben on a trouvé.
Benabar.
La digue du cul en revenant de Nantes.
Merci d'avoir trouvé.
Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous.
Et la BO voilà. Quand même du film.
Et ça c'est qui ?
Ça s'appelle Generation, je connais pas.
D'accord.
Vous l'avez entendu cette chanson ? Est-ce que non, quand on tourne un film, on connaît absolument pas la BO ?
Non, pas du tout.
Jamais ?
Non.
Alors il y a ça aussi. Ça dépend un peu de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils imaginent. Oui. Il y a des moments un peu
psychédéliques,
exactement. Et puis il y a une chanson, je ne sais pas si elle va sortir un jour en single ou si Leslie Medina veut venir la chanter à Taratata, elle sera la bienvenue. Parce qu'elle chante bien.
Mais on l'a pas la chanson de Leslie là ?
On l'a pas, la chanson de Leslie, non. Elle est sortie.
Elle
existe ?
Forcément.
Non, mais faut laisser les gens le découvrir au cinéma.
Mais Leslie, elle chante d'autres choses aussi. Elle s'accompagne au ukulélé et tout. D'ailleurs, Thomas Olivera...
Ah, c'est une chanteuse aussi. Je savais pas qu'elle chantait.
Non, mais elle est actrice, chanteuse, elle fait tout.
D'accord.
Et Thomas Olivera aussi joue du ukulélé. Il joue très bien et chante très bien. Il y a pas mal d'acteurs chanteurs ukulélé.
Il y a un truc avec le ukulélé.
Ariel Ballet aussi est un acteur chanteur ukulélé.
Il y a pas mal d'acteurs chanteurs ukulélé.
Nagui aussi, pour lui, ça fait une guitare.
Est-ce qu'un acteur chante bien ? Est-ce que la justesse d'un acteur, la bonne tonalité, veut forcément dire qu'il est capable de bien chanter ?
Ah, c'est une bonne question. Je sais pas, je suis pas spécialiste.
Deux bonnes questions.
Faudrait demander aux musiciens. Ouais. Non, mais attends, elles sont subtiles les questions.
Deux bonnes questions.
Et alors, peut-être que pour mon cerveau, un peu trop.
D'accord, ok. Demain,
c'est pas vrai.
Vous connaissez tous. Ayo. Eh bien, sera là demain en live pour nous présenter son nouvel album.
Je suis pas gêné.
Écoute, elle m'a posé la question, j'ai dit ouais. Allez, trois titres demain à Yo en live. Et nous aurons également Arthur Dupont et Jean-Pierre Bacri qui viendront donc nous parler de Grand Froid.
Vous avez de la chance.
Ce qui était génial, c'est de vous avoir, Isabelle Nanty, comme invité.
Ouais,
merci mille fois d'avoir pris le temps sur le tournage. D'étude de venir parler à ce micro de Mon Poussin qui sort demain.
Merci beaucoup.
Merci Isabelle. Et rendez-vous donc le 1er janvier pour
2018
pour un scénar. Ouais. Mon Poussin, Philippe Bertrand.
J'allais dire salut mes poules. C'est et merci à Isabelle Tourmund, comment on dit
ma mère s'appelait Hans, enfin s'appelle toujours Hansen. Gerd Hansen.
Elle parle de tout le monde au passé.
Et les années 80.
Et figurez-vous qu'on va parler de poules avec un éleveur dans la Meurthe-et-Moselle qui élève ses poules pondeuses sur la musique de Mozart.
Ah bah voilà, c'est bien, c'est une bonne idée.
C'est un bon enchaînement,
mais c'est bien
ça.
Quand même. Ouais,
et tiens, Nagui, j'ai quand même pensé à toi. Dis-moi. Hier, j'ai regardé Poutine sur FR3, comme le dit Hubert Védrine. Il doit te regarder sur Antenne 2. Et j'ai trouvé Stone très poutinien et Poutine un peu Stone.
Joli.
Pas mieux.
Salut les amis.
Bonne émission, merci. Les carrés de campagne, c'est l'heure pour Philippe Bertrand.